Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Chères toutes et chers tous, je vous espère en bonne forme en ce vendredi. La pluie est de retour sur le plateau et je pense que la nature s'en réjouit et c'est sans doute ce retour de la pluie qui m'a donné envie aujourd'hui de vous raconter un conte écrit par Paul de Musset qui était le frère aîné d'Alfred et dont la tombe se trouve au cimetière du Père Lachaise. Ce conte s'appelle « Monsieur le vent et Madame la pluie » et j'ai toujours énormément aimé cette histoire. Alors j'appartiens à cette génération qui écoutait beaucoup de disques et des cassettes. Nos parents nous mettaient des cassettes lors des longs trajets en voiture et sur ces cassettes il y avait des contes de Perrault, de Grimm, d'Andersen. Donc nous avons énormément écouté des histoires dites. Et ce Monsieur le vent et Madame la pluie, eh bien en fait est raconté aux enfants par un comédien et acteur qui maintenant doit avoir bien 84 ans, qui est Bernard Verlet. Alors, je vais vous lire cette histoire parce qu'en fait, voilà, comme je le disais, elle a gardé une place tout à fait particulière dans mon imaginaire. Plus j'avance en âge et plus je me rends compte à quel point ce que nous pouvons voir, ressentir, éprouver dans l'enfance nous marque. Voilà, nous le conservons en nous, ça peut être donc des histoires, des musiques, des odeurs, des maisons, des objets, des endroits où nous avons passé nos vacances. Et je voudrais vous lire ce conte, et peut-être que d'ailleurs cette histoire pourra plaire à vos enfants. Donc il s'agit de Monsieur le Vent et Madame la Pluie. Au temps où le bon roi Robert chantait au lutrin, vivait en Bretagne un pauvre meunier, appelé Jean-Pierre, qui ne possédait pour tout bien que son moulin, une méchante cabane et un jardin potager. Il se lamentait en voyant tourner d'autres moulins sur les collines du voisinage et la pluie tomber dans la vallée, pendant que son jardin dépérissait par la sécheresse et que les ailes de son moulin restaient immobiles. Mais ces lamentations ne servaient à rien. Le vent ne les écoutait point et la pluie ne s'en souciait guère. Il avait pour femme une jolie paysanne nommée Claudine, active et bonne ménagère. Lorsqu'elle tomba malade, elle venait de donner le jour à un gros garçon qui reçut le nom de Pierrot. Jean-Pierre, qui possédait déjà trop peu d'argent pour les nourrir, se trouva si pauvre qu'il ne pouvait même pas acheter de quoi la soigner. Un soir, veillant près de sa femme et de son fils endormi, il réfléchissait sur sa triste position. « Hélas !» implorait-il. « Si au moins Monsieur le Vent voulait souffler sur mon moulin et Madame la Pluie tomber sur mon jardin, je me tirerais d'embarras. » Et comme il disait ces mots, Jean-Pierre vit la flamme de la chandelle qui vacillait. Sur le toit, la girouette rouillée gémissait avec force. La fenêtre était ébranlée, la porte remuait sur ses gonds. Le loquet, qui ne tenait à rien, sauta. La porte s'ouvrit toute grande et Jean-Pierre vit entrer dans la chambre un personnage extraordinaire. Son corps pouvait se ployer dans tous les sens, tant il avait de souplesse et d'élasticité. Ses yeux brillaient comme du phosphore. Tantôt ses joues paraissaient maigres et plissées, tantôt elles s'enflaient comme des ballons. Sa large poitrine faisait le bruit d'un soufflet de forge et les deux grandes ailes qu'il avait aux épaules n'auraient pu se déployer dans la chambre. Un manteau rouge flottait autour de lui, en faisant tant de pluie qu'on ne distinguait pas précisément les formes de son corps. Et ses pieds rasaient la terre, sans qu'il se donnât la peine de marcher. « Donnez-moi une chaise, » dit-il à Jean-Pierre, « que je me repose un moment chez toi avant de poursuivre ma route. » Le meunier offrit avec empressement sa meilleure chaise de paille. « Asseyez-vous, monseigneur, » dit-il, et reposez-vous chez moi aussi longtemps que vous voudrez. Ayez seulement la bonté de parler bas pour ne point réveiller ma femme qui est malade et mon enfant nouveau-né. » « Ne crains rien, » répondit l'étranger. Le murmure de mes paroles les endormira, au contraire, plus profondément. Je suis Monsieur le Vent, à qui tu as plusieurs fois adressé tes invocations. Tu ne t'étonneras pas de me voir un peu essoufflé quand tu sauras qu'en moins d'une heure, je viens de visiter les côtes de Bretagne tout entière. Ton seigneur, dont le château est voisin, n'a pas voulu me recevoir. Ses gens ont fermé les portes avec de gros verrous. Et chez toi, au contraire, je trouve les murs percés à jour, le loquet mal attaché, je n'ai qu'à pousser la porte pour entrer dans ta chaumière. Voilà une maison comme je les aime. Je te sais gré de ton accueil hospitalier. Demande-moi quelques services, Jean-Pierre, et je te le rendrai volontiers. Ah, oh, monsieur le vent, dit le meunier, tout ce que je vous demande, c'est de souffler 3 ou 4 heures par jour sur mon moulin. « Ah, mon pauvre Jean-Pierre !» dit le vent. « Il ne m'est pas permis de sortir tous les jours. Madame la pluie occupe le ciel pendant le tiers de l'année et me chasse comme une ingrate aussitôt que j'ai amené ces nuages. Je vis enfermée dans ma caverne pendant des mois entiers. Mais je commanderai à mes zéphyrs et mes petits esprits de ne pas oublier ton moulin dans leur course. Quand tu seras malheureux ou persécuté, « viens me trouver dans ma caverne. Je demeure tout là-haut, au sommet de la montagne du Midi. » En parlant ainsi, Monsieur le Vent s'élança d'un bond par la porte. Il déploya ses grandes ailes et disparut. Mais les petits esprits qu'il avait laissés derrière lui suffirent à faire tourner le moulin. Aussitôt après le départ de Monsieur le Vent, la pluie se mit à tomber, d'abord doucement, puis ensuite à torrent. Comme Monsieur le Vent était sorti sans fermer la porte, le battant s'entr'ouvrit de 3 ou 4 pouces, et par cet espace étroit, Jean-Pierre vit entrer une grande dame de figure singulière. Son corps était un peu vaporeux, son visage défait, comme si elle relevait de maladie. Ses cheveux ne frisaient point du tout et lui tombaient jusqu'aux talons. Ses yeux étaient voilés par 2 ruisseaux de larmes, et son nez un peu enflé par le rhume de cerveau. Sa robe était entièrement grise et son manteau de même. Sur son écharpe de soie brillaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette dame s'avançait lentement, sans qu'on vît remuer ses pieds. Elle bâillait en étendant les bras et paraissait accablée, plutôt d'ennui que de lassitude. Oh, « Donnez-moi une chaise, » dit-elle à Jean-Pierre, « afin que je me repose un instant avant de descendre dans la vallée. »« Asseyez-vous, madame, » dit le meunier. « Veuillez seulement parler bas, car ma femme est malade et mon enfant dort. »« Ne crains rien, » répondit la dame. « Le bruit de mes paroles les endormira d'un sommeil meilleur. »« Je suis madame la pluie, à qui tu as souvent adressé tes invocations. » Le seigneur du château voisin m'a fermé au nez ses portes et ses fenêtres. Chez toi, je trouve la porte ouverte. Aussi j'aime ta chaumière. Et je me souviendrai de ton bon accueil. Demande-moi ce que tu voudras. Je te le donnerai. Madame la pluie, répondit Jean-Pierre, pourrais-je vous demander de vouloir bien tomber 2 ou 3 fois par semaine sur les légumes de mon potager ? Hélas, mon ami, gémit la dame, je ne cours pas le monde comme je le voudrais. Monsieur le soleil est plus fort que moi et me repousse dans ma grotte à chaque instant. Je suis enfermée pendant les 2 tiers de l'année. Mais je t'enverrai mes rosées du matin et mes petits nuages, à qui je donne la clé des champs, entre 2 rayons de soleil. Et si ta femme et ton enfant éprouvent quelque malheur, je les prendrai sous ma protection. Ne manque pas de m'en informer. Je demeure dans ma grotte de l'ouest, sur le rivage de la mer. Madame la pluie se glissa par la porte entr'ouverte et s'abattit dans le fond de la vallée. Un grand rayon de soleil dissipa bientôt les nuages et le meunier sortit de sa cabane et s'en alla au moulin. Il y trouva de quoi remplir 2 sacs de farine. Il courut ensuite au jardin et y cueillit des laitues et des choux qui avaient poussé. Il porta la farine chez un fermier et vendit ses légumes au marché. La femme de Jean-Pierre, ayant dormi jusqu'au matin, n'avait entendu ni Monsieur le Vent, ni Madame la Pluie. Elle fut fort étonnée d'apprendre que le moulin avait tourné pendant la nuit, et de voir l'argent et les provisions rapportées par son mari. Pendant les jours suivants, le moulin tourna soir et matin. La rosée tomba sur le jardin potager. Jean-Pierre faisait bon feu et bonne chère. Sa femme reprit des forces et le petit Pierrot devient rose et frais, comme une pomme d'api. Le bonheur et la gaieté étaient revenus dans la maison. Un jour, le seigneur du château voisin passa devant la cabane de Jean-Pierre en allant à la chasse. Les seigneurs de ce temps-là jouissaient d'un grand pouvoir. Celui-ci avait le cœur dur, il aimait beaucoup l'argent. Et pour s'en procurer, il accablait ses gens d'impôts.
« Hola ! » dit-il au meunier, « tu me dois 6 mois d'imposition. Si tu ne me paies pas, je t'arrache de ta cabane et je te fais travailler sur mes terres à coups de bâton. »
Jean-Pierre le supplia en vain. Il fut bien obligé de lui donner tout le peu d'argent qu'il possédait. Et Claudine se mit à pleurer de tout son cœur. « Ne pleure pas, lui dit Jean-Pierre, tout le monde n'est pas aussi méchant que monsieur le baron. Donne-moi mes souliers ferrés, ma canne et mon manteau de laine, et j'ai une visite à faire. » Claudine essuya ses larmes et lui fit 1000 questions, mais il ne voulut pas répondre, et il partit. Il traversa des champs et des prés, monta 3 heures dans un bois de sapins, puis escalada des rochers à l'aide de sa canne et de ses souliers ferrés. Enfin, il parvint au sommet de la montagne, avant le coucher du soleil. Voyant l'entrée d'une caverne, le meunier pensa que ce devait être l'habitation de Monsieur Levent. À peine eut-il fait 25 pas qu'il le reconnut, assis au fond de sa caverne, éclairé par les feux follets.
« Qui vient là ? » cria Monsieur Levent de sa voix puissante.
« C'est moi, Jean-Pierre, répondit le meunier. Votre Excellence a daigné se reposer chez moi il y a un mois.
Eh bien, comme veux-tu ? »
Ce qu'il vous plaira de me donner, balbutia Jean-Pierre, pourvu que cela m'empêche de mourir de faim, car j'en suis menacé.
Tu ne mourras pas de faim, reprit Monsieur Levent avec plus de douceur. Prends ce tonneau d'argent et cette baguette. Et quand tu seras chez toi, tu frapperas avec la baguette sur le petit baril et tu verras ce que tu verras.
Lorsque Jean-Pierre sortit de la caverne, il faillit se rompre le cou parmi les roches. Il déchira son manteau de laine après les buissons et se mouilla les pieds dans un marais en dépit de ses souliers ferrés. Mais il ne lâcha point son baril ni sa baguette. Sa femme commençait à s'inquiéter lorsqu'à 9 heures du soir, le meunier entra au logis. Elle l'interrogea tant et si bien qu'il lui raconta comment il avait reçu la visite de Monsieur Levent, comment celui-ci avait promis sa protection et lui avait donné le tonneau et la baguette d'argent en lui indiquant le moyen de s'en servir. Jean-Pierre recommanda bien fort à sa femme de ne point parler de cette aventure au commère du voisinage. Le mystérieux petit tonneau d'argent les intriguait aussi fort l'un que l'autre. Sous le regard inquiet de Claudine, Jean-Pierre le posa debout sur la table, puis, d'une main tremblante, il frappa dessus avec la baguette d'argent. Aussitôt, le baril s'ouvrit en 2 parties, comme une armoire. D'un côté, il y avait une cuisine, de l'autre, un office miniature. Dans la cuisine, on voyait des broches grosses comme des aiguilles, des chaudrons grands comme des dés à coudre, des poêles à frire à mourir de rire. Un cuisinier haut de 3 pouces et 2 petits marmitons s'agitaient devant les fourneaux, surveillaient les broches et goûtaient les sauces. Il faisait rôtir des dindons, gros comme des abeilles, et des poulets, gros comme des mouches. Il taillait des choux paumés qui ressemblaient à des têtes d'épingles. Pendant ce temps, 2 domestiques, de la même taille que le cuisinier, rangeaient la vaisselle dans l'office. Ils essuyaient des assiettes de porcelaine qui étaient grandes comme des pièces de 5 sous et des verres qui semblaient faits pour donner à boire à des moineaux. En un tour de main, le dîner se trouva prêt. Devant le meunier et sa femme, tout ébahi, tout ce petit monde sauta prestement sur la table et déposa les plats fumants, plaça assiettes et couverts, bouteilles et carafes. Puis ils rentrèrent dans le petit tonneau qui se referma subitement. Au même instant, les plats qui se trouvaient sur la table devinrent de véritables plats de la grosseur ordinaire, les bouteilles de grandes bouteilles remplies de vin délicat et les couverts de bons gros couverts en bon argent. Jean-Pierre et sa femme avaient faim. Eh bien, ils soupèrent copieusement. Le meunier but à la santé de Monsieur Levent,
se coucha la tête un peu troublée et ronfla comme un chantre. Claudine ne put dormir, tant elle avait hâte de voir le jour se lever pour aller conter son aventure à sa voisine, la laitière. La laitière ouvrit de grands yeux en écoutant son histoire. Elle ne manqua pas d'aller raconter l'aventure de sa voisine au cuisinier du château. Le cuisinier raconta la nouvelle au valet de chambre, et le valet de chambre du baron apprit à son maître ce qui était arrivé à Jean-Pierre. Alors, le baron conçut tout de suite le projet de s'emparer du petit tonneau d'argent. Il vint trouver Jean-Pierre et lui offrit 10 000 livres en échange de son baril. « Qu'as-tu besoin de manger des dindons rôtis dans une cabane délabrée ?» lui dit-il. « Avec mes 10 000 livres, tu pourras bâtir une autre maison, acquérir des champs et devenir un riche propriétaire. » Le meunier, pensant faire là une bonne affaire, accepta une promesse écrite de son seigneur sans en connaître le contenu, car il ne savait pas lire, et lui laissa emporter le petit tonneau. Hélas, quand le meunier vint au château réclamer son dû, on le mit à la porte en lui disant qu'il était un insolent d'oser demander de l'argent à son seigneur, et ses regrets redoublèrent lorsqu'il apprit que le baril d'argent servait tous les jours dans la salle à manger du château des festins splendides pour autant de personnes qu'il plaisait au baron d'en inviter, et qu'il amassait ainsi tant de cuillères et de fourchettes en argent qu'il ne savait plus qu'en faire. Jean-Pierre jurait ses grands dieux de ne plus jamais se laisser tromper par les offres de son seigneur, et Claudine promettait de ne plus confier de secrets à ses commères. Malheureusement, ses résolutions ne réparaient point les sottises passées. Jean-Pierre se décida à faire une seconde visite à M. Levent. Il se mit en route, dès le point du jour, avec ses souliers ferrés, sa canne et son manteau de laine. Comme il savait le chemin, il ne perdit point de temps et arriva à la caverne, alors que M. Levent, en habit de voyage, se préparait à sortir. Lorsqu'il aperçut le meunier, il lui cria d'une voix de stentor : Oh, maître Jean-Pierre, tu as le talent d'arriver toujours mal à propos. Il faut que je sois dans un quart d'heure au milieu de l'océan. Monseigneur, implora le meunier, écoutez-moi, monsieur le baron m'a pris de force le tonneau d'argent que vous m'aviez donné. Cela ne se peut pas, s'écria monsieur Levent. Si on avait voulu te prendre ce petit baril par la violence, il se serait enflé si gros qu'on n'aurait pu le faire sortir, ni par la force, ni par la porte, ni par la fenêtre. Tu l'as donc donné ou vendu volontairement. Tu es un voleur et un fourbe. » Jean-Pierre pleura et supplia, si bien que M. Levent se radoucit un peu et lui donna ce qu'il voulait de lui. « Un autre petit tonneau merveilleux, » balbutia le meunier. « Prends ce tonneau d'or et cette baguette, » dit M. Levent, « mais ce sera mon dernier présent. » Ne reviens jamais dans cette caverne. » Et les petits esprits raccompagnèrent le meunier jusqu'à sa cabane avec des éclats de rire. Claudine attendait son mari avec une impatience extrême. Lorsqu'elle le vit revenir portant le petit tonneau d'or, elle battit des mains et sauta de joie. Jean-Pierre posa le baril par terre et frappa un grand coup avec sa baguette d'or. Sur l'instant, la bonde du tonneau s'ouvrit et il en sortit une fumée noire qui monta jusqu'au plafond de la chambre. Cette fumée prit forme humaine. La tête était grosse comme une citrouille, avec des traits affreux, et un gros corps, comme le tronc d'un chêne. Le meunier se trouva devant un géant d'une force extraordinaire et armé d'un bâton. Aussitôt que le géant put se tenir sur ses pieds, il courut à Jean-Pierre, le saisit d'une main par le collet de sa veste, et de l'autre lui appliqua sur les reins 25 coups de bâton si terribles que le pauvre homme poussa des cris pitoyables. Cela fait, le géant s'évanouit en fumée et rentra dans le petit tonneau comme il en était sorti. Jean-Pierre restait étendu, gémissant, et Claudine mettait déjà son bonnet pour aller raconter cette triste aventure à sa voisine lorsque monsieur le baron entra. Il avait aperçu le meunier rentrant chez lui, le petit tonneau d'or sous le bras, et s'empressait de venir voir si on accepterait de le lui céder. Jean-Pierre se montra plus avisé que la fois précédente. Dissimulant à son seigneur les douleurs que le baril magique venait de lui causer, il réussit à le lui vendre pour 20 000 livres que le baron fit chercher sur le champ et lui remit en bon, en bon écu sonnant. Jean-Pierre vérifia la somme, rangea les sacs dans son armoire et mit la clé dans sa poche. Dès son retour au château, le baron s'enferma dans sa chambre pour essayer le tonneau merveilleux. Ses gens l'entendirent pousser des cris aigus. Ils accoururent et le trouvèrent étendu sur le carreau. Le géant était déjà rentré dans sa demeure et l'on ne sentait plus dans la chambre qu'une légère odeur de fumée. Comme le seigneur avait l'air moins dur que le meunier, il resta au lit pendant 2 jours avec une courbature. Mais il ne voulait point se vanter des coups de bâton qu'il avait reçus. C'est pourquoi il ne parla de son aventure à personne. Il feignit même d'être content de posséder le petit tonneau d'or. Alors je m'interromps ici parce que je ne voudrais pas que cette histoire vous ennuie. Ce serait dommage parce qu'elle est vraiment super. Je continuerai la lecture la prochaine fois. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je cite vraiment un conte que je trouve à la fois drôle, plein de poésie. Il est très joliment illustré. Et peut-être qu'il pourra également plaire à vos enfants. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je souhaite aux enfants de passer de bonnes vacances et aux adultes qui pourront aussi prendre des vacances, de se reposer et de souffler un peu. Je vous dis à bientôt et vous remercie de m'avoir écoutée.